France Musique.
Le pays des orgues. Bonjour à tous, nous en voici venus à la troisième et dernière étape de notre randonnée musicale en Alsace du Sud. Dimanche prochain, nous serons à Belfort, je vous en reparlerai. Pour l'heure, nous voici à Eschenswiller, ravissant petit village de 1473 habitants très exactement au sud de Mulhouse et à moins de 30 km de la frontière suisse dans ce qu'on appelle la plaine d'Alsace qui s'étend au sud jusqu'à Bâle et nous offre un paysage de collines verdoyantes avec leurs fermes, pâturages, vergers. On y cultive des pommes, poires, cerises, prunes et noix. Des légumes aussi, poireaux, pommes de terre, oignons et des champs de blé et de maïs à perte de vue également, avec le massif des Vosges à l'ouest et celui de la Forêt Noire à l'est. Une forte proportion des habitants travaille dans les centres urbains voisins, ainsi qu'en Suisse et en Allemagne. Le village se situe d'ordinaire sur la trajectoire d'atterrissage de l'aéroport international Bâle-Mulhouse-Freiburg, mais depuis quelques semaines, c'est le silence absolu ou presque. Et cela va faire le bonheur de nos preneurs de son, Michel et Valentin, pour capter l'orgue Zilbermann de ce charmant village.
Thank you.
Johann Josef Fuchs, Ave Regina Cellorum, K205, Antienne Marial pour soprano et orchestre, Mieke van der Sluis, soprano, Harmonico Tributo Austria, Lorenz Duftschmidt à la direction. La raison de notre présence aujourd'hui à Eschenzwiller, c'est que l'orgue de son église Saint-Pierre et Saint-Paul n'est autre que l'ancien orgue du couvent des Dominicains de Colmar, aujourd'hui musée Unterlinden, mondialement connu. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont visité, sachez qu'il prenait place dans la chapelle où se trouve aujourd'hui le fameux retable d'Isenheim de Matthias Grünewald. Les deux chefs-d'œuvre n'auront jamais coexisté, puisque l'œuvre de Matthias Grünewald y aura été transférée au milieu du XIXe siècle, alors que l'orgue Silbermann avait justement été transféré en 1793. Fin connaisseur de cette riche histoire, Christian Lutz a piloté la récente restauration de l'orgue Silbermann d'Eschenzwiller.
Le pays des orgues, Benjamin François, c'est l'été sur France Musique.
Christian Lutz, le 18e siècle en Alsace est le siècle où l'orgue entre au village, ce qui est une situation très différente de ce qu'on connaît dans la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace. Comment un petit village comme Eschenzwiller réussit-il à réunir suffisamment de fonds pour acheter en 1793 un instrument aussi important au couvent d'Unterlinden de Colmar ?
Mais peut-être qu'à ce moment-là, le village d'Eschenzwiller n'était pas si petit que ça, puisque au moment où l'orgue a été acheté, il comptait quand même à peu près 800 habitants, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Et donc, effectivement, ces paroissiens étaient suffisamment motivés par l'achat d'un orgue pour acheter cet orgue d'occasion, qui était quand même moins cher qu'un orgue neuf, même si, en fait, comme il y a eu une personne intermédiaire, ils ont perdu encore un peu d'argent et qui, finalement, ils l'ont acheté pour une somme à peu près de 4500 livres, ce qui est quand même assez considérable et qui était presque le prix d'un orgue neuf. Alors on peut penser qu'il y avait là-dedans quand même le prestige de Silbermann qui a compté.
Christian Lutz, mais comment se fait-il que l'Alsace soit le pays des orgues, comme l'a dit au milieu du 19e siècle Aristide Cavaillé-Coll, et qu'un petit village comme Eschenzwiller en arrive à vouloir racheter, même d'occasion, vous venez de nous le dire, cela restait tout de même une dépense très onéreuse, un orgue qui trônait dans un couvent d'une ville bien plus importante?
Il y avait une sorte d'émulation en fait entre les villages. Si un village voisin avait un bel orgue, on se devait d'avoir un orgue si possible encore plus beau, plus grand, plus majestueux. Mais il y avait aussi le fait que l'orgue servait à l'accompagnement du chant par les maîtres d'école dès le XVIIIe siècle et que donc ça facilitait considérablement les choses d'avoir un orgue pour accompagner les chantres.
Thank you.
les frontières franco-suisses et franco-allemandes que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas les mêmes au XVIIIe siècle. Il faut donc s'imaginer un espace rhénan beaucoup plus ouvert.
Oui, il n'y avait pas les frontières entre la Suisse et le sud de l'Alsace n'étaient absolument pas aussi étanches qu'elles peuvent l'être actuellement. Déjà par le fait que, avant la Révolution, tout le Haut-Rhin en fait dépendait de l'évêché de Bâle, et donc évidemment ça avait créé beaucoup de liens et que les paroisses alsaciennes allaient encore dans les pèlerinages suisses, par exemple le pèlerinage marial de Mariastein, où les bourgeurs avaient construit un grand instrument de trois claviers. Et c'est probable qu'en allant voir cet orgue de Mariastein, ils ont dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire venir chez nous.
Pour que l'on comprenne bien, Christian Lutz, vous étiez avant 2015 en présence d'un instrument avec plusieurs strates, puisque le travail de Jean-André Zilbermann avait été modifié, pour ne pas dire défiguré, au XIXe siècle. La décision de remettre l'instrument dans son état d'origine était-elle évidente ?
Oui, il y a eu tout un dilemme quand même de savoir est-ce qu'il fallait conserver l'état bourgeois qui est quand même historique et qui avait un certain intérêt, ou est-ce qu'il fallait entièrement déposer le matériel de bourgeois et refaire l'orgue Zilbermann. Et finalement, l'argument qui a pesé, c'était de dire que Zilbermann était un facteur d'orgue quand même de tout premier plan, d'importance européenne, alors que les frères Burger, avec toute la sympathie qu'on peut leur porter, n'étaient quand même que des petits facteurs ruraux, avec un côté un petit peu rustique, qui n'avait pas du tout la même qualité intrinsèque.
En quoi a consisté le travail de restauration de Quentin Blumenroder en 2016, Christian Lutz ?
C'était une opération assez lourde, puisque par exemple le grand buffet avait été élargi, donc il a fallu retrouver les proportions d'origine. Mais bon, la facture de Zilbermann a un côté quand même un petit peu standardisé, donc il avait proposé des dessins de buffet assez semblables ailleurs, notamment on a le dessin pour un orgue qu'il n'a pas réalisé à Neufbrisach et qui ressemble exactement à ce qu'il a fait au couvent de Zuntolinden à Colmar. Et puis, il s'agissait de refaire tous les sommiers, sauf celui du positif qui était encore conservé, de refaire quasiment toute la mécanique, sauf quelques bribes qui restaient encore, quelques vergettes, quelques éléments de la mécanique des jeux. Il s'agissait de refaire aussi la console des claviers qui avait entièrement disparu, et la soufflerie. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a des fameux carnets là de Zilbermann où il a noté beaucoup de choses. Et comme c'est un petit peu le début de sa carrière, c'est un de ses premiers orgues neufs, il a noté beaucoup de choses, notamment les dimensions des sommiers, les dimensions des soufflets. Et ça a été évidemment une source très importante pour la reconstitution de tout ce qui avait disparu. Ceci étant, dans toute restauration, il y a toujours un caractère hypothétique. Et peut-être que dans 30 ans, on trouvera que la restauration qui a été faite en 2016 à Eschenswiller était en fait assez ratée. Bon, on a toujours tendance à tuer ses pairs, donc nos successeurs seront peut-être très sévères avec nous. Donc il faut accepter ce jugement futur.
Improvisation d'une suite du 8e ton par Olivier Virvas à l'orgue Zilbermann d'Eschensviller. Nous avons entendu successivement Plein jeu, Petite fugue sur le Kromhorn et Dialogue sur le cornet et la trompette du positif. Bonjour Olivier Virvas.
Bonjour Benjamin.
Ravi de vous retrouver sur France Musique à la faveur de ce passage à Eschensviller. Un orgue Zilbermann trône sur la tribune de cette église. Et peut-être la première question qu'on pourrait se poser, c'est quelle littérature pour orgue, quelle musique offrir à cet orgue Zilbermann, en concert par exemple ?
Je crois que les instruments, quand ils sont beaux, peuvent se prêter à différentes musiques. C'est vrai qu'on a des sources qui disent qu'on a pratiqué la musique française. Après, de quel style exact, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, le passage de Marchand, de Louis Marchand, à la cathédrale de Strasbourg, marque certainement un petit peu la musique en Alsace. Et ensuite, la musique allemande du Sud, en rappelant que l'Alsace faisait partie de l'Autriche supérieure, enfin en tout cas du royaume des Habsbourg, bien entendu que la musique d'Allemagne du Sud et des grands maîtres d'Allemagne du Sud ont été très, très à la mode en Alsace à cette époque.
Olivier, on a pourtant ici un orgue de village, donc on n'est pas à Strasbourg, on n'est pas tout à fait à la cathédrale de Strasbourg, mais on est au milieu des champs avec quelques maisons posées dans un petit village de l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas une déclinaison justement pour un village ?
C'est vrai que si cet orgue, par son harmonie, rappelle un petit peu un orgue de village, c'est aussi un instrument qui trônait d'abord dans un couvent à Colmar. Voilà. C'était un instrument donc, qui était censé accompagner l'office des sœurs, qui se trouvait à Unterlinden, qui aujourd'hui est un musée. Mais je pense que d'une certaine façon, même s'il y a des petites différences au niveau des registres, le travail de Zilbermann avait une part systématique, et la qualité de l'instrument, en tout cas, devait être assez égale sur tous ces instruments.
Alors Olivier, on vous a eu lors de notre premier passage en Alsace, à Sainte-Croix-en-Plaine, il y a 15 jours. Et maintenant, vous voici ici, ce n'est pas du tout le même programme évidemment que vous nous proposez. Et vous avez choisi ici un programme orienté vers l'improvisation. Qu'improviser sur un orgue Zilbermann ?
Bon, je crois qu'en fait les couleurs de cet instrument se prêtent particulièrement bien à la musique française. Donc, c'est pour ça que je propose d'essayer en tout cas d'improviser une suite dans le style français, plutôt du 18e. Ensuite, pour rappeler les couleurs d'Allemagne du Sud, il y aura donc un motet, afin d'avoir un peu de polyphonie, un motet de Fuchs, puis ensuite une chaconne, qui veut rappeler un peu les chaconnes de Pachelbel, pour rappeler toujours l'Allemagne du Sud. Et enfin, pour terminer, peut-être voilà, le maître absolu peut-être de la musique d'orgue, donc Bach, avec une transcription voilà, d'un trio, et puis une fugue que j'ai tenté d'écrire sur un de ses thèmes, et dans son style.
Formidable, on est en Alsace ici, vous dites Bach et non pas Bach, puisqu'on entend aussi parfois à Strasbourg Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire qu'on mélange les deux, on est vraiment franco-allemand.
Ouais, Carl-Philippe Emmanuel, il signait son nom B-A-K à Berlin, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de règles à ce niveau-là.
N'est-ce pas ? Thank you. C'est une question qu'on se pose pour beaucoup de musiciens français, Olivier Virvas. C'est-à-dire qu'ils ont été tous titulaires d'instruments formidables. François Couperin à Saint-Gervais n'a laissé que deux messes pour orgue et rien d'autre. Et c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres musiciens. Alors qu'est-ce que ces musiciens jouaient eux-mêmes en liturgie ? Est-ce que l'improvisation n'était pas au centre, finalement, de leur métier ?
Ouais, d'autant plus que les deux messes de François Couperin sont, semble-t-il, été composées dans sa prime jeunesse. Hein, et elle ne reflète pas forcément le style du grand François Couperin que l'on peut trouver dans ses pièces de clavecin, par exemple. Et il est vrai que l'orgue, qui avait peut-être un usage majoritairement liturgique, c'est vrai que l'improvisation se prête particulièrement bien à la liturgie catholique, et c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être un peu moins de répertoire.
Alors rappelons rapidement ce qu'était le chant dans l'Église catholique à l'époque, c'est-à-dire le plein chant alterné, inversé, donné à l'orgue, inversé, chanté par la scola, inversé, joué à l'orgue, inversé par la scola. Vous auriez aimé vivre à cette époque, Olivier Virvas, pour vivre ce plein chant en alternance ?
Ouais, votre question, Benjamin, en fait, était finalement pour moi la question du contraste. Et c'est vrai que la monodie du chant grégorien, que l'on alterne avec une polyphonie, ou en tout cas avec toutes les couleurs de l'instrument, répond particulièrement bien à la problématique baroque, car pour moi, une des grandes problématiques de la musique baroque, c'est le contraste. Dans un concerto, on a des mouvements lents et des mouvements rapides, et peut-être que dans la musique d'église, on peut du coup considérer qu'il y a une alternance entre la monodie et la polyphonie.
Thank you. suite de l'improvisation du 8e ton par Olivier Virvas à l'orgue Zilbermann d'Eschenzwiller en Alsace. Nous avons écouté successivement cette fois-ci basse de Cromorn, duo, récit de Nazar et dialogue sur les grands jeux. Quelles sont les couleurs que fait ressortir cette littérature pour l'époque? Il y a des mélanges qui sont des mélanges typiques et que l'on retrouve systématiquement d'un compositeur à l'autre.
Oui, on trouve les registres typiques de l'orgue français, bien souvent dans les instruments de Zimmermann. C'est peut-être l'harmonie et quelques détails de construction, en tout cas un concept sonore qui est peut-être différent de l'orgue français parisien tel qu'on le conçoit. Avec des différences aussi pour Zilbermann entre les églises catholiques et les églises protestantes, car l'usage n'est pas le même. Dans une église, on accompagne le choral, dans l'autre, on fait l'alternance.
Citez-nous quelques mélanges typiques de l'orgue français de l'époque, peut-être. Ceux que vous allez entendre, je vois, plein jeu, basse de Cromorn, duo, récit de Nazar, dialogue sur les grands jeux. Tous ces grands moments, ces chapitres, comme des chapitres d'un livre, quelque part.
Le plein jeu, donc, c'est là où on renforce les harmoniques d'un son, hein, donc on ajoute les quintes et les différentes octaves afin d'avoir un son plein. Sur certains instruments, comme ici, ça peut se traduire simplement par quatre jeux, donc le bourdon, le prestant, la doublette et la fourniture. On a bien entendu le récit, donc on peut avoir le récit de Nazar, qui est également un jeu qui renforce les harmoniques. On peut avoir des trios sur une petite trompette, un cornet, qui est également un registre qui joue sur les harmoniques. Et le Cromorn, par exemple, qui est également un jeu d'anche et qui tient son nom d'un instrument de la Renaissance.
Antienne Mariale pour alto solo et orchestre, K153 de Johann Joseph Fuchs, par Carlos Mena alto, Armonico Tributo Austria, Lorenz Dufschmidt direction. Alors, tout le monde ne connaît pas Johann Joseph Fuchs. Rusé comme un renard, certainement, ce compositeur, qui était-il ?
Johann Joseph Fuchs est très connu, en tout cas par les musiciens du XVIIIe, parce qu'il a écrit un grand traité, Gradus ad Parnassus, qui a fait référence, en tout cas dans la théorie de la musique, jusque chez les élèves de Bach, dont pratiquement tous parlent. Ce traité a d'ailleurs été traduit également en allemand, à Leipzig d'ailleurs. Donc Bach connaissait bien entendu ce traité, on le sait. Mais Johann Joseph Fuchs était peut-être le maître de chapelle qui avait le plus d'envergure à l'époque, à Vienne, au début du XVIIIe. Donc c'est un compositeur qui est assez contemporain de Jean-André Zimmermann. On le connaît mal dans la musique d'orgue parce qu'il n'a pas laissé de pièces pour le clavier, si ce n'est quelques sonates et quelques suites pour clavecin. Mais par contre, il a composé énormément de pièces vocales à destination religieuse, des motets, tout un tas de messes et de cantates, etc. Et c'est ma foi d'une musique d'une très grande qualité.
Johann Joseph Fuchs, Ave Maria, Offertorium pro Dominica, par Olivier Virvas, à l'orgue Zilbermann d'Eschenswiller.
Le pays des orgues, Benjamin François, C'est l'été sur France Musique.
Quentin Blumenroder, vous qui connaissez intimement les orgues Zilbermann, vous connaissez très bien celui de Marmoutier, vous connaissez celui de Saint-Thomas à Strasbourg. Est-ce que vous avez l'impression que, à l'époque, les orgues de Zilbermann évoluaient avec le temps? Est-ce que la vision de Zilbermann de l'orgue a évolué avec le temps, ou bien ce sont des instruments qui restent assez égaux au travers des décennies?
Alors c'est une question très très intéressante que vous posez, parce que c'est une des rares occasions où on peut avoir une dynastie, où on peut étudier deux voire trois générations de facteurs qui se sont suivis avec un atelier prestigieux du début à la fin. Et finalement, force est de constater que l'esthétique trouvée dans la foulée de Marmoutier à Ebersmünster, par exemple, entre 1709 et 1734 par le père, a été très largement conservée, maintenue, jusque dans les dernières années des grandes créations. On pourra citer par exemple Molsheim en 1781, où on retrouve les mêmes dimensions de tuyaux, les mêmes hauteurs de bouche. Mais c'est Eschensviller a permis de prouver à quel point, tout en conservant cette trame, eh bien, en fonction de l'utilisation, ils allaient faire des améliorations, des modifications sur telle et telle partie du jeu, pour le rendre plus ou moins doux, plus ou moins polyvalent dans telle et telle fonction, à tel point qu'on comprend maintenant très bien la différence entre un orgue protestant, un orgue catholique, un orgue de couvent, un orgue d'une grande église ou d'une petite église. Et là, je dois dire que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait beaucoup appris à Eschensviller. Autant le positif numéro 9 du musée des arts décoratifs de Strasbourg, qui est presque intouché en matière d'harmonie et d'ailleurs de l'ensemble, nous avait appris sur la façon dont les Zilbermann travaillaient les tuyaux, autant celui des Eschensviller nous a appris à quel point il s'adaptait aux besoins de l'instrument, enfin des utilisateurs.
Dernière question, Quentin Blumenroder, il y a aussi des Zilbermann de l'autre côté de la frontière suisse, notamment à Arlesheim. Est-ce que ces instruments, qui eux n'ont pas peut-être subi autant la révolution que les instruments situés sur le territoire français, est-ce que ces instruments sont différents de ceux qu'on connaît en Alsace du Sud, par exemple?
Eh bien non, ils ont fait exactement les mêmes instruments, et d'ailleurs je peux vous dire qu'ils ont créé une école aussi en Suisse, et pas que en Alsace, puisque de nombreux facteurs, notamment autour de Bâle, où il avait réalisé quatre instruments, de nombreux facteurs se sont inspirés très largement, jusque dans les années 1820, de cette facture. Et on retrouve, par exemple, à Arlesheim, cet orgue extraordinaire qu'on a la chance d'entretenir, et je vais d'ailleurs prochainement aller passer trois jours dans cet orgue, on a la chance d'avoir un certain nombre de tuyaux conservés qui n'existent dans aucun autre orgue, alors qu'ils les avaient réalisés, mais qui ont disparu. Et en fait, on se rend compte que quand on fait des comparaisons, on retombe exactement sur les mêmes instruments. Pour une église catholique, bien sûr.
Thank you. improvisation d'une chaconne en mi mineur par Olivier Virvas à l'orgue Silbermann d'Eschenswiller. À l'instant sur France Musique, dans le pays des orgues, c'était le Largo, transcrit de la sonate en trio en sol majeur, BWV 1038 de Johann Sebastian Bach, par Olivier Virvas à l'orgue Silbermann d'Eschenswiller. Une question que l'on peut se poser au sujet des orgues des Silbermann d'Alsace, c'est si ce sont des orgues parfaits pour jouer les œuvres de Johann Sebastian Bach, sachant que quelques organistes ont même tenté l'intégrale. Qu'en pense Olivier Virvas ?
Il n'y a aucun lien évident, en tout cas, entre les orgues de Jean-André Silbermann et la musique de Bach. Déjà, les instruments sont au diapason de 392, ce qui rend déjà peut-être la polyphonie un peu moins claire. Le seul lien qu'on ait peut-être avec Silbermann et Bach, c'est lors de son voyage à Dresde, dont on conserve un Tagespuch, un livret de voyage, un carnet de route, et où il parle de sa rencontre avec Scheibe à Leipzig, donc un facteur d'orgue qu'a connu Bach, et également avec Zorge, qui était un élève de Bach. Mais en tout cas, avec ces orgues alsaciens ne sont pas, pour moi en tout cas, les instruments idiomatiques qui correspondent à la musique de Jean-Sébastien Bach.
Et si nous écoutions la fugue sur un thème de Bach, Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern festlich, c'est une version très personnelle d'Olivier Virvas, extrait du motet Jesu meine Freude, BWV 227 de Johann Sebastian Bach. Il me reste à remercier Christophe Fischer et l'association pour le rayonnement de l'orgue d'Eschenzwiller pour son accueil, la ville d'Eschenzwiller, le journal L'Alsace et bien sûr aussi l'équipe du Pays des Orgues, à la prise de son Michel Gassic, assisté de Valentin Azan-Sielensky, Thaïssa Froidur, attachée de production, et Jean-Claude Mullet à la réalisation. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 8h pour notre quatrième étape du Pays des Orgues. Nous serons à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort en compagnie de l'organiste Gabriel Wolfer. Il y sera question du magnifique orgue Waltrin Calinet qui trône en tribune, mais pas seulement. Le Pays des Orgues s'écoute aussi, pour ceux qui seraient encore dans les bras de Morphée, à 8h, en podcast ou en streaming sur francemusique.fr. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.